Les mondes africains, troisième épisode, l'Afrique australe.
Je ne me reconnais pas. Où sommes-nous ?
À l'entrée d'un village de blancs amazoulou.
C'est curieux. Pourquoi n'y a-t-il que des blancs ? Mon pays serait-il devenu le pays des blancs ? Je n'ai vu aucun de nos frères noirs jusqu'à maintenant. C'est étrange. Dans ces hautes cases qui se dressent devant nous, n'y aurait-il pas l'un des nôtres ?
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec, comme hier, comme avant-hier, comme demain, François-Xavier Fauvel. Bonjour.
Bonjour.
Titulaire de la nouvelle chaire au Collège de France, Histoire et archéologie des mondes africains, vous présentez souvent comme un grand couturier de savoirs éparpillés.
Oui, c'est-à-dire que j'aime bien cette idée que l'histoire de l'Afrique se fait en réunissant des pièces disparates. Voilà. Et couturier, oui, parce qu'il s'agit de faire de réunir un patchwork, ce qui veut dire aussi de renoncer au grand récit et de faire avec les moyens qu'on a, avec les sources qu'on a, avec les documents disparates qui peuvent être écrits, qui peuvent être oraux, qui peuvent être rupestres, qui peuvent être linguistiques, et d'arriver néanmoins avec ça à produire un tissu composite qui raconte de l'histoire.
Mais un premier point d'appui pour vous, l'Afrique du Sud, parce que votre thèse, vous l'avez consacrée à l'époque moderne, enfin au sens européen du mot, de l'Afrique du Sud, où vous avez ensuite travaillé, détaché par le CNRS, entre 2004 et 2005, et vous y retournez assez souvent. On peut faire de l'archéologie, parce que vous avez une formation archéologique très importante, vous jugez très importante l'archéologie dans l'histoire de l'Afrique, vous avez une possibilité de travailler en archéologie en Afrique du Sud ?
Oui, on peut travailler en archéologie en Afrique du Sud, je dirais même que c'est essentiel pour remonter dans le temps. Les sources écrites, et en particulier les sources européennes, qui émanent toutes de voyageurs ou de colons passés par l'Afrique du Sud ou établis en Afrique du Sud, sont très insuffisantes pour transgresser le voile d'opacité qui se met entre les sociétés africaines et nous, et pour remonter un peu plus haut dans le temps, un tout petit peu plus près des sociétés africaines dont on cherche à reconstituer l'histoire. Il faut se doter de ces moyens-là, et en particulier l'archéologie est l'une de ces ressources.
L'archéologie, on peut la pratiquer dans le désert, la steppe du Kalahari, où on retrouve vos amis, les Bochimans. Ici, ça vient d'un reportage de France 3 de 1977. Plus que le produit d'une fouille, c'est une sorte de figure de cire, comme on en voyait autrefois dans les musées, le sauvage idéal, peut-être.
Les Bochimans, les hommes des buissons. Ils ne vivent que de chats, cette cueillette. C'est une race réputée très primitive, proche des pygmées d'Afrique équatoriale. Sans doute ces survivants de la préhistoire ont-ils occupé autrefois toute l'Afrique. Mais sous la pression des invasions, ils ont cherché refuge les uns au plus profond des forêts, les autres au cœur des déserts, où la lutte pour la vie est un devoir quotidien. Farouches, ils vivent par petites tribus éparses, groupant quelques familles. Mais quelle fête, lorsque les chasseurs, grâce à leurs flèches empoisonnées, ont eu l'aubaine d'un gros gibier. Les vieux savent qu'il faut penser à l'avenir. Découper les viandes en longues lanières, les sécher, les mettre en réserve. Et voilà le spectre de la famine écarté pour quelque temps. La joie du ventre bien garni va se traduire comme il se doit, par des danses.
On n'a pas retrouvé le nom de l'auteur de cette série, Les Grands Fleuves. Dommage, François-Xavier Fauvel.
Voilà en tout cas le genre de représentation, c'est-à-dire que les Bushmen comme société primitive, relique de la préhistoire, vivant dans une espèce d'immédiateté du présent, soumise à l'environnement et au régime de disette. Voilà exactement une représentation à laquelle il faut s'habituer à renoncer. Voilà. Les sociétés de chasseurs-cueilleurs, ça n'est pas du tout ça. Ce ne sont pas des vestiges de la préhistoire. Ce sont nos contemporains. Ce sont des gens qui n'ont cessé de vivre en Afrique, qui n'ont cessé d'être coprésents avec toutes les autres sociétés africaines et les autres sociétés du monde et qui sont encore aujourd'hui nos contemporains. Donc il faut renoncer à une vision évolutionniste qui tend à nous faire voir.
Oui, mais attendez, faut renoncer, mais il faut reconnaître la méconnaissance aussi. La reconnaissance de la méconnaissance.
Il faut absolument reconnaître de quelle façon cette image de primitivisme s'est construite dans notre représentation occidentale. Il faut ensuite s'en défaire et arriver à se réhabituer à comprendre que les San, parce qu'on dirait aujourd'hui les San, c'est un terme moins péjoratif que le terme de Boshiman ou Bushman, sont véritablement nos contemporains et ont continué tout au long de l'histoire africaine à vivre, à innover, et à cohabiter et à échanger avec les autres sociétés.
Oui, mais notre image de ces aïeux reliques de temps préhistorique, ça coïncide avec cette autre image, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Alors qui vous agace que vous présentez comme un cliché ?
Ce n'est pas que ça m'agace, c'est que c'est à la fois vrai et trompeur. Il est vrai que l'Afrique a été le berceau de l'humanité. Elle a même été plusieurs fois le berceau de l'humanité, le berceau de ce qu'on appelle les hominidés, le berceau de ce qu'on appelle les homininés, le berceau de l'homme moderne, il y a environ 200 000 ans. Et néanmoins, mettre l'accent exclusif sur ces berceaux, sur ces origines, tend à nous faire oublier que l'histoire s'est continuée en Afrique. C'est-à-dire que l'Afrique n'a pas cessé d'être intéressante le jour où nos ancêtres, à différents moments, l'ont quittée pour rendre le reste du monde intéressant. L'histoire s'est continuée en Afrique et c'est ce que j'ai envie de dire.
Vous avez fait de l'archéologie rupestre, Crystal Cave. Un texte de vous est paru, je crois que c'est aux publications de la Sorbonne, sur ces fresques rupestres. Alors, on y voit entrant en compétition pour un troupeau de vaches, semble-t-il. Des petits hommes bruns armés qui doivent être les San, et puis poursuivis. Armés, eux, de Sagaï, qui doivent être des Bantous.
Exactement, voilà. C'est une scène de poursuite, voilà, entre deux groupes humains. Le premier poussant devant lui un troupeau de vaches, et puis le second derrière pourchassant le premier avec des Sagaï. Et ce panneau rupestre a une histoire à la fois très très célèbre et très très compliquée, qu'avec deux collègues, François Bon, professeur de préhistoire à Toulouse, et Jean-Loïc Lequellec, spécialiste international des parois rupestres. Bon, nous avons d'abord reconstitué, parce qu'il a fallu reconstituer cette très très belle et très fragile image en allant chercher dans les musées européens des pièces manquantes qui avaient été prélevées, en allant chercher dans les archives des photos anciennes ou des relevés anciens, et puis avec des outils numériques modernes, on a reconstitué les différentes étapes de cette image. Et puis, une fois reconstituée cette image que plus personne n'avait vu depuis très longtemps, depuis le moment où elle avait été faite, on a pu commencer à réfléchir dessus et à se poser la question de qui l'avait faite et quand. Et on s'est aperçu de choses qui n'avaient pas été vues jusqu'à présent, voilà, et que les premiers bons hommes, le premier groupe humain, celui qui pousse devant lui ses vaches, n'étaient pas du tout, comme on l'avait pensé, des voleurs, des bushmen primitifs, comme on vient de l'entendre, mais au contraire, sans doute une société de pasteurs de vaches qui tentaient de protéger devant eux un troupeau tout à fait organisé, poursuivi par d'autres gens qui n'étaient pas du tout les gens qui avaient été volés, mais au contraire des gens qui essayaient de leur voler leur vache. C'est une belle illustration de la façon dont l'enquête permet de rentrer dans la documentation, de montrer aussi comment une image rupestre peut servir de document historique.
Et puis c'est une image de la coprésence de personnes qui sont contemporaines et qu'on n'imaginait pas être contemporaine. La coprésence est un axe de toutes vos recherches sur l'Afrique. On a déjà parlé du grand Zimbabwe, non loin de l'endroit où nous étions il y a un instant, où de grandes enceintes de pierre fermaient des cités, où s'échangeaient beaucoup de marchandises, où arrivait aussi l'or. Alors il y a eu un état autour du Haut Zimbabwe, et puis le Monomo Papa, c'est non loin de là, un peu plus tard, prend la place. Alors, encore une archive que vous allez dire datée, c'est l'explorateur célèbre François Balzan, qui a parcouru un peu toutes les parties du monde, dans un magazine de Pierre Sabag, 1967.
Le Monomotapa, ce peuple et lui-même n'aimaient pas l'or. C'étaient des amateurs du fer et du cuivre. Ils trouvaient l'or beaucoup trop malléable. Mais comme, en arrivant au XIe siècle, ils ont trouvé les peuples de sang jaune, ce sont les gens de sang jaune, cousins germains proches des Bushmen, ils ont trouvé ces peuples qui exploitaient déjà de l'or et qui en vendaient déjà aux Arabes, car les Arabes étaient arrivés sur les côtes, pas encore à Sofala, mais sur les côtes de l'Afrique, dès le VIIe siècle. Ils ont vu que ses prédécesseurs exploitaient de l'or.
Mais d'abord, les mines elles-mêmes, oui. Les creusets, les outils.
Et on voit très bien les traces d'exploitation par le feu sur lequel on jetait de l'eau froide ensuite. Puis alors on remontait les fragments de tous ces puits et il fallait les broyer. Vous voyez là sortir de ces vieux puits qui peuvent avoir ici 600 ans. Tandis que ce puits-là, cette galerie horizontale, reflète des conseils d'arabes. Vous avez...
Elle est voûtée.
Elle est voûtée, précisément. Et on y retrouve les techniques de l'Arabie du Sud.
Bon, alors les Bantous en contact avec les Arabes, vous nous avez déjà parlé de ça. Ce qui a attiré notre attention, c'est cette expression, les peuples de sang jaune.
Oui, voilà, à nouveau un extrait qui nous invite à faire, pour vos auditrices et auditeurs, une archéologie des sons et de représentations de l'histoire de l'Afrique. Voilà exactement ce qu'on ne peut plus dire. Alors, on ne peut plus parler des sociétés africaines en termes raciaux, comme on l'entend là. On ne peut plus non plus supposer, parce qu'on voit dans une galerie de gisements miniers, en l'occurrence orifères, une voûte, que c'est automatiquement attribuable aux Arabes, ça n'a absolument aucun sens. Bon. De la même façon qu'on ne peut plus dire non plus, parce qu'on voit des belles constructions, ces forteresses du Zimbabwe en pierre, qu'il faut les attribuer à des Phéniciens ou à des Hébreux ou que sais-je encore.
Ou à la reine de Saba.
La reine de Saba, non.
Alors, ils étaient blancs, les gens de la reine de Saba. C'est quoi ce chromatisme-là, en Afrique du Sud, jaune, brun, noir?
C'est ce qui nous montre que la recherche est toujours ancrée dans le présent et que la recherche telle qu'elle se fait encore, il y a encore quelques décennies, est ancrée dans une idéologie, en l'occurrence une idéologie chromatique. Bon. Et c'est-à-dire oui, de hiérarchie des races par la couleur. Le Zimbabwe est une république raciale au moment dans les années 60, et comme l'est l'Afrique du Sud, comme l'est l'Afrique du Sud voisine, et cette idéologie de la division des sociétés en groupes raciaux, de la hiérarchie des groupes raciaux les uns par rapport aux autres, informe voilà même les discours savants.
D'accord. 1488, nous sommes toujours en Afrique du Sud, sur les côtes, les Blancs, enfin les Portugais, je veux dire, arrivent. Comment ça se passe avec les peuples de chasseurs-collecteurs ou de chasseurs-cueilleurs entre les Portugais et eux?
Ça se passe de diverses façons. Le premier voyageur portugais qui aborde la côte d'Afrique du Sud, c'est Bartolomeu Dias, ouais, qui fait escale dans plusieurs anses de l'Afrique du Sud actuelle. Et puis 10 ans plus tard, Vasco de Gama, qui à nouveau fait escale. Et puis encore quelques Portugais qui passent et qui font simplement escale quelques jours ou quelques semaines pour s'approvisionner en eau ou en bois, etc. Et puis à la faveur de ces rencontres, des échanges ont lieu. Centré sur le bétail, centré sur l'eau, etc. Bon, et puis certains de ces échanges se passent bien, et puis d'autres se passent mal. Voilà. Et l'un qui se passe mal, c'est celui de 1515, au moment où la flotte portugaise qui revient des Indes, conduite par d'Almeida, le vice-roi des Indes, fait escale dans une baie d'Afrique du Sud. Et puis croit pouvoir exciper de sa supériorité militaire, et puis pense pouvoir faire une petite expédition dans l'intérieur pour aller chercher de force du bétail, prend au passage des enfants en otage, etc. Et les Khoikhoi ne se laissent pas du tout faire.
Les Khoikhoi, la
société Khoisan, voilà, de la société d'éleveurs de vaches qui habitent à ce moment-là la région de la péninsule du Cap, s'organise très très vite.
Et ils lance des bœufs guerriers contre les Portugais.
Exactement. Et il lance des bœufs dressés à répondre aux sifflements et qui encornent les Portugais et qui laissent sur la plage plusieurs dizaines d'aristocrates portugais morts.
Le sifflement et le clic. Alors, c'est une langue extraordinaire que celle des Khoïkhoï. Vous en parlez dans un livre, à la recherche du sauvage idéal, aux éditions du Seuil, orné d'un carnet de bord que vous avez tenu pendant votre séjour en Afrique du Sud. C'est une langue qui ravit les linguistes, parce qu'il faut faire intervenir la linguistique pour faire de l'histoire de l'Afrique.
Oui, ce sont des langues qu'on appelle les langues Khoïsan, qui possèdent une particularité remarquable qui est d'avoir des clics, donc des sons aspirés, qu'on ajoute aux consonnes ou aux voyelles, qui sont des sons tout à fait particuliers, caractéristiques de ces langues de l'Afrique australe. Langues qui ont longtemps défié les linguistes, langues que les voyageurs portugais d'abord et puis les colons néerlandais ensuite ont cru imprononçables à un gosier européen et qui néanmoins s'apprennent. Enfin, ce sont des langues tout à fait normales, tout à fait traductibles avec les autres langues du monde.
Vous avez tenté l'expérience de les faire entendre dans votre leçon inaugurale au Collège de France?
Alors, j'ai pas prononcé de langue Khoïkhoï dans ma leçon inaugurale, mais j'ai néanmoins rappelé qu'il y a eu une période au moment de l'humanisme européen au XVIIe siècle où des savants européens ont entrepris dans un grand projet universaliste de collecte de toutes les langues du monde, de collecter aussi des témoignages de langues Khoïkhoï et qui de ce fait sont rentrés dans les collections européenne et qui témoigne d'une foi chez ses savants, en particulier Leibniz, par exemple, dans la traductibilité de ces langues Khoïsan avec les autres langues du monde.
Je sens que je vais devoir renoncer à vous faire imiter le clic. Vous préférez le faire entendre par Myriam Makeba. Programmation musicale toute la semaine, François-Xavier Fauvel. Vous pouvez peut-être présenter ce chant en public, d'ailleurs.
Alors, c'est un... Myriam Makeba, qui est elle-même Xhosa, qui est une langue qui parle une langue bantou, mais qui est une langue bantou qui a incorporé des clics au fur et à mesure de son histoire.
Enfin, porosité du clic.
Exactement. Et qui chante là une chanson qu'elle a elle-même intitulée Click Song, et qu'on va entendre.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Les mondes africains, le troisième épisode aujourd'hui, toujours avec François-Xavier Fauvel, consacré à l'Afrique australe. Les Néerlandais arrivent au milieu du XVIIe siècle.
Oui, les Néerlandais s'installent en 1652. Au bout de l'Afrique. Pourquoi font-ils ça? Parce que le voyage entre Amsterdam et Jakarta, leur colonie de Batavia en Indonésie, le voyage est très long et qu'au milieu de ce voyage, à l'aller comme au retour, il leur faut une station de ravitaillement qui est créée en 1652. Qui n'est d'abord qu'une petite station de ravitaillement et qui très très vite devient une colonie, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas d'y avoir une garnison, on y installe des colons qui ont pour tâche de produire les aliments qui vont servir au ravitaillement des navires néerlandais, donc de la viande, des céréales, du vin et des fruits essentiellement. Et puis très très vite cette colonie prend de l'ampleur, très très vite les colons s'émancipent de la tutelle politique de la compagnie néerlandaise des Indes orientales, et puis s'engage un processus de pénétration dans l'intérieur qui devient très très vite hors de contrôle, voilà, et qui en un siècle conduit cette colonisation à asseoir sa domination sur des territoires qui s'enfoncent de plus d'un millier de kilomètres dans l'intérieur de l'Afrique australe.
Parce que c'est la première fois que dans notre série nous parlons de la colonisation. Il faut bien comprendre que les colonies de peuplement sont extrêmement rares en Afrique. C'est le premier exemple. Et est-ce que l'exemple suivant ne sera pas donné par les Français et puis tous les Européens qui viendront en Algérie?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, effectivement, l'Afrique au 16e, 17e, 18e siècle n'est pas colonisée, fondamentalement. Il y a une colonie portugaise en Angola, il y a une colonie portugaise au Mozambique, et puis il y a surtout la colonie néerlandaise de la colonie du Cap de Bonne-Espérance, qui est véritablement la première très très grande colonie qui implique des possessions de terres, etc. Et pour le reste, les Européens se sont, pendant ces trois siècles-là, relativement désintéressés de l'intérieur de l'Afrique et avaient installé des comptoirs qui sont des forteresses sur des points de côte, qui sont des places marchandes où des garnisons contrôlaient le commerce, l'interface entre les navigateurs européens et les royaumes côtiers pour l'approvisionnement en particulier en esclaves.
Mais ce sont encore des Européens, ces gens qui peuplent jusqu'à 1000 kilomètres à l'intérieur des terres, l'Afrique du Sud.
Ce sont par leur origine, ce sont des Européens d'Europe du Nord, néerlandais, mais aussi français, huguenots, mais aussi on pourrait allemands, mais aussi etc. Qui tous fusionnent dans une culture coloniale qui est celle qui donnera naissance à l'afrikaans, la langue des afrikaners.
C'est une langue de Canaan, c'est une langue informée par la Bible. Ils ont un mode de vie très particulier.
Oui, c'est un mode de vie très très puritain qui effectivement revendique en outre une autonomie très très forte par rapport à la tutelle à leurs origines européennes et la tutelle de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales et qui se considèrent eux-mêmes comme africains. C'est-à-dire que le terme Africaneur veut dire les Africains, par opposition aux colons, aux gens venus d'Europe. Voilà.
Cette compagnie a laissé des archives. Vous avez travaillé dans ces archives.
Cette compagnie a laissé de magnifiques archives, d'ailleurs totalement sous-exploitées, dont une grande part. Alors, il y a trois grands fonds d'archives, l'un aux Pays-Bas, l'autre à Jakarta, et puis un magnifique fonds d'archives qui est au Cap, à la Bibliothèque nationale au Cap, et qui occupe des kilomètres de rayonnage, très 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 bien conservé, avec toutes les archives relatives à la compagnie depuis le XVIIe siècle jusqu'à la prise de possession britannique au début du XIXe siècle.
Alors, fin XVIIIe, début XIXe, l'apparition des Britanniques, mais c'est à ce moment précis que, pendant un moment, se crée une unité politique tout à fait étonnante, qui est celle des Zoulous, commandés par Chaka. Chaka Zoulou, dans cette émission que nous connaissons depuis lundi de très près, Mémoire d'un continent. C'est un petit chef de clan, son clan occupe 100 km², mais alors attendez, hein. Les hommes, voire les femmes, qu'il commande sont déterminés.
Sans faiblesse et sans pitié, Chaka va rafler toute une belle jeunesse disponible, et des danseurs, il va faire des guerriers. Désormais, décrète Chaka, nul ne pourra prendre femme s'il n'a lavé sa lance dans le sang d'un ennemi. Cadre et un corps d'officiers, les Impi, pour encadrer une troupe qu'il dote de splendides uniformes et de panaches. Tout dévoué à Chaka, les voilà ces farouches régiments Zoulous qui vont semer la terreur de tribu à tribu et fonder au début du siècle dernier un vaste empire éphémère au sud de l'Afrique.
Au sud de l'Afrique, mais au nord de notre Afrique du Sud, qu'est-ce qui s'est passé? Les Afrikaners sont allés trop près?
Alors d'abord,
il y a eu des frottements.
D'abord, on peut pas ramener l'histoire de la formation de ce royaume à simplement cette vue un petit peu terroriste de l'histoire. C'est bien plus que simplement une histoire guerrière. C'est aussi une véritable histoire de construction nationale. Véritable histoire de construction nationale, et c'est pas du tout anachronique de le dire, dans laquelle la politique de chacun joue un très très grand rôle. Au départ, effectivement, c'est un clan, mais c'est un clan qui dont l'expansion zoulouise un certain nombre de populations aux alentours, uniformise une langue, uniformise des pratiques, uniformise une culture, étend les frontières d'un royaume en même temps qu'étend les limites d'une identité qui deviendra au XXe siècle l'identité zoulou. Et en effet, à un certain moment, cette formation politique sud-africaine tout à fait originale rencontre, mais cette fois-ci de façon pas du tout pacifique, rencontre une autre expansion venue de l'Ouest, venue du Sud-Ouest, qui est celle de l'expansion des bourgs, des Afrikaners, qui cherchent à s'échapper de la tutelle de la nouvelle colonie britannique pour coloniser dans l'intérieur et y créer leur propre république.
Bon, la république d'Orange, la république de Transvaal.
Exactement, voilà.
Préférons partir, disent-ils aux Anglais, pour préserver la pureté de nos doctrines.
Voilà. Alors effectivement, ça c'est la version que les Afrikaners eux-mêmes cherchaient à donner. En réalité, ils cherchaient aussi à protéger l'institution de l'esclavage que les Britanniques venaient d'abolir. Et évidemment, cette rencontre violente entre République Afrikaner et royaume Zoulou provoque dans l'ensemble de l'Afrique australe une série de perturbations dans toute la deuxième moitié du 19e siècle qu'on appelle le Mfekane, voilà, le grand chambardement, parce que beaucoup de sociétés à ce moment-là se trouvent en conflagration, détruites et sujettes à des déplacements forcés et à des massacres.
Je suggère à nos auditeurs, je parle comme vous, à nos auditrices et auditeurs, de lire l'histoire de l'Afrique du Sud que vous avez publiée au Seuil. On va s'arrêter au tournant, encore un autre grand virage de 1900, les Anglais et les Bourgs sont entrés en conflit parce que, au Transvaal notamment, il y avait des veines aurifères sous les terrains agricoles et l'or attirait bien sûr les Anglais. Alors l'or, ça va être le thème de votre séminaire au Collège de France, aussitôt fini votre première salve de cours. C'est la fameuse guerre anglo-bourg, la guerre dite des Bourgs, qui est intéressante parce que l'Afrique nous fait entrer dans l'univers de la guerre moderne qu'on va connaître sur beaucoup de terrains en Europe.
Oui, cette guerre des Bourgs 1899-1902 est d'une certaine façon une guerre mondiale, c'est-à-dire que les Britanniques en particulier mobilisent dans leur empire colonial des forces qui sont engagées en Afrique du Sud, et puis on voit à ce moment-là apparaître dans ce conflit des techniques de guerre, en particulier le camp de concentration, dont l'expression même est créée à ce moment-là par les Britanniques pour y enfermer les prisonniers Afrikaners. Et c'est une guerre en outre qui ne fait pas que opposer Afrikaners et Britanniques, mais de part et d'autre aussi interviennent des sociétés africaines d'Afrique du Sud qui jouent des rôles dans ce conflit-là.
Et c'est une guerre qui n'épargne pas les civils.
C'est une guerre, exactement, qui, comme les guerres du XXe siècle, frappe principalement les civils et pas du tout les forces armées engagées. Oui.
S'il y a une preuve de la coprésence de l'Afrique au monde, c'est hélas cette guerre des bourgs. Alors, on vous retrouve demain pour quelques généralités. Vous aimez bien commencer par la fin. Eh ben, moi, c'est l'inverse. On va évoquer à la fin de notre série votre leçon inaugurale d'il y a quelques semaines au Collège de France. Merci à vous, François-Xavier Fauvel. Cette émission a été préparée par Frédéric Martin, Franck Olivard et Linka Negulesco. La réalisation, Étienne Bertin, à la technique, Florent Beauvalet.